Alors nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous avons un verset qui va retenir notre attention ce matin. C'est le verset 25 du chapitre 4, là où on s'en était arrêté la semaine dernière. Donc Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Ou on pourrait traduire également, Adam eut des relations conjugales avec sa femme. Elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors on voit dans notre petit verset de ce jour, Ève avait toujours à l'esprit son fils qui avait été tué, Abel. Alors ça nous ramène en arrière tout ça, comme elle, probablement, elle devait souvent revenir en arrière et repenser à son fils défunt qui avait été tué par son frère aîné. Nous avions parlé, lorsqu'au chapitre 4 de la Genèse, nous sommes passés sur ce texte, nous avions parlé de la souffrance, on voit la souffrance arriver, faire irruption dans notre monde, la violence également, la violence de la mort de Abel. Son sang avait coulé et il était mort violemment. Nous avions vu à ce moment-là que, en fait, les premières souffrances, c'était des souffrances annoncées par Dieu comme une sanction suite à la désobéissance d'Adam et de Ève. Et on avait appelé ça des souffrances méritées, en quelque sorte. Des souffrances méritées, avec des petits crochets comme ça. Des sanctions divines. Il y avait une sanction sur Adam qui allait souffrir pour gagner sa vie. Ça n'allait plus être facile comme dans le jardin où tout était à sa disposition, tout était super, il n'avait qu'à lever la main et il recevait de la terre tout ce dont il avait besoin. Et pour Ève, dans le contexte qui nous intéresse, les dames sont normalement soutenues par leur mari en ce qui concerne le travail pour gagner ça pour la subsistance, mais elle avait à voir donc Ève des grossesses qui allaient être difficiles, des accouchements qui allaient être douloureux et par-dessus tout, en plus de tout cela, donc un mari qui allait avoir une place de domination par rapport à elle. Et on avait vu à l'époque ce que cela pouvait représenter, cette souffrances qui sont générales pour tous les hommes, ça dure encore aujourd'hui, où les hommes, ils doivent être actifs, ils doivent se bouger pour gagner le pain pour chaque jour. C'est depuis le commencement, c'est comme ça que cela se passe. Et ça rappelle donc cette question de désobéissance de Adam. Pour les hommes, ça leur met ça à l'esprit. Pour Ève également, ça doit rappeler le prix de la vie, je pense, hein, lorsque une maman donne naissance à un enfant, il y a une période de grande souffrance et je pense que la perception qu'on a de la valeur de la vie est très différente. Et donc également, la position dominante du mari qui rappelle le problème qu'elle avait eu de vouloir être semblable à Dieu. Il y a des souffrances qui sont, donc ça, c'est ces trois points-là qui sont pour tous les hommes simplement et pour toutes les femmes. Ça remonte donc au péché originel, comme on dit. il y a des sanctions divines qui concernent des fois des communautés entières. On voit des exemples dans la Bible avec l'histoire d'Israël, comment Dieu a dû souvent sanctionner, frapper, punir la nation d'Israël. C'était pour son bien à chaque fois. Il peut y avoir également dans nos vies des interventions de Dieu de la même manière, où on a une sanction dans nos vies de façon privée. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas aux autres, quand on voit une personne qui souffre, c'est pas à nous de dire ah ben voilà c'est Dieu qui le punit, parce qu'on ne sait absolument rien, c'est la personne qui est concernée, c'est quelque chose de privé, hein, il ne faut pas oublier la leçon que nous laisse la parole de Dieu par rapport aux amis de Job dont nous allons reparler tout à l'heure. Il y a des souffrances qui sont imméritées. On avait appelé ça un petit peu les souffrances de Abel, qui a été assassiné, souffrances de sa famille, de Ève, de Adam. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se souvenir Dieu sait tout cela. On avait vu que le sang de Abel criait. Dieu sait tout cela. Et il faut faire confiance à Dieu qui rendra justice pour toutes choses. On avait également vu dans le texte qui a suivi concernant Caïn que le méchant, lui, il souffre pas dans cette histoire de l'histoire de Abel et de Caïn. On a vu Caïn qui ne souffrait, qui n'avait pas souffert. Lui, c'était l'assassin. Finalement, Dieu l'avait protégé d'être jugé, d'être vengé. Et il n'a pas souffert. On l'a vu dans l'histoire de la semaine dernière. Les méchants ne souffrent pas. Les méchants ne souffrent pas. Alors, au moins en ce qui concerne notre vie ici-bas, on va lire ensemble le témoignage d'Asa. La lecture du psaume 73 maintenant. Si quelqu'un veut lire à voix lente ce psaume 73... Oui, tout le psaume.
Dans ma tradition.
Oui, si tu veux.
Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. Car je voyais le bonheur des orgueilleux. Et j'étais jaloux de ces gens mauvais. Jusqu'à la mort, ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les mêmes soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil et la violence les enveloppe comme un vêtement. Leurs yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel. Et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens-là disent « Dieu ne sait rien ». Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose? Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours, on me frappe et tous les matins, on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais, mais alors, oh Dieu, je trahirai tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela et j'ai vu que c'était difficile. Mais quand je suis entrée dans ton peuple, dans ton temple, j'ai compris ce qui attend ces gens-là. Oui, tu les mets sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchirée, j'étais stupide, je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je ne désire que toi. Et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Tu détruis tous ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur, Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait.
Voilà Asaf qui nous raconte une expérience que peut-être que vous avez vécue, que de voir des gens qui ne sont pas gentils et puis tout va bien pour eux. Et puis à moi, il m'arrive que des problèmes sur problèmes, des sujets de souffrance qui s'enchaînent les uns aux autres. Ça, des fois, on a l'impression que ça ne finit, que ça ne va jamais finir. Et on peut avoir des tiraillements par rapport à ça. En tout cas, on voit ici, Asaf témoigne que pour lui, ben, les méchants, ils souffrent pas. Ils souffrent. Et c'est ce qu'on a vu dans notre texte avec Caïn. N'empêche, là où il y a de la souffrance, il y a besoin de consolation. Il y a besoin de consolation. C'est le thème de la consolation, les consolations de Dieu qui nous vont nous intéresser ce matin. On avait développé ce thème de la souffrance la dernière fois. Juste en faisant un petit aperçu sur les consolations de Dieu, aujourd'hui on va faire l'inverse. Alors, les consolations sont souvent humaines. Quand on souffre, on a des fois la chance d'avoir des personnes autour de nous qui vont venir nous consoler. C'est motivé par la compassion, par le tiraillement qui se passe à l'intérieur de nous quand on voit une personne souffrir. On peut lire le livre de Job, chapitre 2, si on peut lire les versets 11 à 13 du chapitre 2, qui nous parle de la démarche des amis face aux souffrances de Job. Il avait tout perdu, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa fortune, il avait perdu ses animaux, et il était frappé par une maladie par-dessus cela, une terrible maladie. Et donc, il est visité par trois de ses amis. Chapitre 2, versets 11 à 13. Oui.
Or, trois amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Téman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit aucun mot, ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande.
Voilà les trois amis de Job qui se sont concertés pour aller réconforter leur ami qui souffrait. Alors, si vous connaissez l'histoire de Job, vous savez que ça ne s'est pas tout à fait passé comme aucun d'eux ne l'aurait voulu. On peut également avoir à l'esprit ce qui s'est passé quand Lazare est mort, vous savez, combien il y avait des personnes qui entouraient cette famille en deuil, ses deux sœurs qui étaient là, Marthe et Marie. Et Jésus lui-même était venu vers cette famille. Et on a vu qu'à ce moment-là, Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Alors, les amis, la famille, des fois même on peut trouver du réconfort dans les souffrances, même avec les animaux domestiques qui nous entourent. Mon père avait eu un grave accident et il était hospitalisé aux soins intensifs à Toulouse, un grave accident de la tête. Et ma mère elle devait faire face à toutes ses obligations à la famille, et donc elle ne se plaignait pas devant ses enfants, bien sûr, mais quand elle était toute seule, une fois où elle pleurait, bah c'était le chien qu'on avait à la maison qui est venu lui lécher le visage. Effacer les larmes, donc toutes sortes. Quand on souffre, il est certain qu'on a besoin d'être consolé. Il y a des consolations donc au niveau humain, au niveau de ce monde, et il y a aussi des consolations qui viennent de Dieu. Dieu peut nous consoler de façon indirecte. On le voit dans notre texte. Quand Adam et Ève ont été rejetés du jardin, Dieu leur a quand même accordé un vêtement de peau. Ils n'étaient pas rejetés eux-mêmes. Et malgré le châtiment, ils ont pu voir que Dieu continuait à prendre soin d'eux. Et c'est quelque chose qui est important lorsque nous avons, par exemple dans l'éducation de nos enfants, besoin de sanctionner un de nos enfants. De le gronder, c'est bien de s'assurer qu'ils sachent qu'on les aime quand même. Et que si on fait ça, on les aime. C'est parce qu'on les aime. J'avais prévu de lire le texte des Hébreux par rapport au châtiment de Dieu, Hébreux chapitre 12. Si vous pouvez aller lire ce texte, on ne va pas trop nous attarder dessus. Ça, c'était pour les châtiments mérités. Et on voit par rapport à cette souffrance que devait avoir Ève par rapport à son fils qui était parti, Abel, qui avait été assassiné. Dieu, dans notre verset, a donné un autre fils à Ève pour compenser la perte d'Abel. Seth, son nom veut dire un petit peu comme désigné. Seth allait être le fils de l'espérance, le fils de l'espérance, et nous sommes des descendants de Seth selon la parole de Dieu. Dieu sait nous consoler également à travers la nature, par exemple, de façon indirecte, qui n'a jamais été réconfortée par une promenade dans la campagne, dans la nature. Cela apaise le cœur. Cela fait du bien. Dieu utilise cela. On avait vu également le développement des arts musicaux pour Jean-Sébastien Bach, le grand musicien. C'était quelque chose qui était important pour lui. La musique devait être à la gloire de Dieu et elle devait jouer un rôle auprès de tous les hommes. La famille, les amis, l'Église, Dieu s'est amené aux personnes qui souffrent les personnes qui vont pouvoir les réconforter. Dans le cas des amis de Job, les trois premiers n'étaient pas arrivés. Ils étaient arrivés avec des pensées préconçues, avec des idées. Pendant 7 jours, ils se sont tus, mais après, hélas, ils se sont mis à parler. Je voudrais qu'on lise à la fin du livre de Job, maintenant, chapitre 42, verset 11, « Car Dieu a dû envoyer d'autres consolateurs pour le réconforter. » Et là, on voit, c'est vraiment, ces gens-là sont arrivés guidés par la main de Dieu. Job, chapitre 42, verset 11. Si tu veux.
Juste
le verset 11.
D'accord. Alors, tous les frères de Job, toutes ses sœurs, tous ceux qui l'ont connu autrefois, sont venus lui rendre visite. Ils ont mangé avec lui, ils lui ont montré leur affection, ils l'ont consolé de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Chacun lui a donné en cadeau une pièce d'argent et un anneau d'or.
Voilà, donc finalement, Job a trouvé des vrais consolateurs à la fin. Dieu les lui a envoyés. Ils sont arrivés avec, vous voyez, avec des petits cadeaux pour lui. Ils sont arrivés tous ensemble. Ils ont fait à manger, des choses toutes simples. Mais Job a finalement été consolé à la fin de l'histoire. Il y a également des consolations directes que Dieu donne. On a lu dans le psaume 73, tout à l'heure, je vais relire les versets 23 à 26. Asaph dit, j'étais stupide, je comprenais rien. Et verset 23, j'étais, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Peut-être plusieurs d'entre nous ont connu un petit peu comme Asaph, la consolation directe de Dieu, où Dieu intervient directement dans votre vie pour consoler un moment où on en a besoin et où il n'y a personne pour nous consoler. Quand on a le privilège de connaître le Seigneur, c'est une expérience que vous avez peut-être fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager quelque chose à ce sujet? Rien qui vous vienne à l'esprit? C'était moi, enfin, j'ai quelque chose qui m'est venu à l'esprit en préparant ce message. C'est il y a bien longtemps de cela, il y avait une invitation de famille à laquelle je ne pouvais pas me rendre pour différentes raisons, et cela m'attristait, cela m'affligeait beaucoup. Je trouvais pas le repos, j'étais malheureux. Et jusqu'à ce que, vous savez comment Dieu nous parle, il ne nous parle pas directement, mais comment il peut s'adresser à notre cœur. Et j'ai compris que ce n'était pas un problème. Et finalement, d'un instant à l'autre, la peine s'est dissipée. J'avais été consolé et ça s'est fait en une fraction de seconde. Dieu peut intervenir dans la vie du croyant pour donner une consolation. C'est ce que témoigne l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1. On va lire les versets 3 à 9. Alors là, peut-être il faut le lire dans une version différente. Je ne vais pas lire dans ma version parce que c'est un peu difficile à comprendre. Qui est-ce qui peut lire la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9? Je vais lire Alain, tu l'as trouvé.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans nos vies, surabondent le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts.
Voilà, donc vous avez noté dans ce texte, littéralement, il appelle Dieu le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, toutes nos peines, afin que par la consolation, nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Et les expériences, donc, la consolation de Dieu que nous pouvons ressentir d'une façon ou d'une autre, ah ben, ces expériences-là, Dieu voudrait qu'on en fasse profiter les autres, puisque nous avons ce privilège que de connaître Dieu, de pouvoir avoir une relation avec le Dieu trois fois saint, par Jésus-Christ. Alors, quelles applications de tout ce que nous venons de lire, de ce développement? On n'a pas trouvé jusqu'à présent de réponse directe au pourquoi de la souffrance, pourquoi la souffrance, ou pourquoi la souffrance, à quoi elle sert en deux mots, pourquoi, en un seul mot qui est une simple question, et pourquoi, pour quoi faire la souffrance. Peut-être on peut avoir des brides de réponses, mais finalement, ce qui est certain, la réponse que Dieu donne à la souffrance, c'est la consolation, c'est le réconfort. Et Dieu a prévu le réconfort. C'est lui qui est le Père de miséricorde, le Père de toute consolation. Qu'une souffrance vienne suite à un péché ou qu'elle vienne de façon complètement imméritée, la parole de Dieu affirme que tous les hommes ont droit à la compassion. Job écrivait ceci, disait ceci, et ses paroles sont rapportées. En Job 6, 14, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » C'était le reproche que faisaient les trois amis d'Éliphaz, les trois amis de Job, qu'on a cités tout à l'heure. Ah ben, ils accusaient Job de toutes sortes de malheurs. Ils disaient, si tu souffres, c'est parce que tu as péché, et donc c'est Dieu qui te punit, et tu n'as qu'à changer, tu ne souffriras plus. Même si ce n'était pas le cas, on le sait. Au contraire, Job souffrait parce qu'il était juste. On a vu également le texte de Asaph sur ce sujet-là. Et Job affirme, mais même si quelqu'un a fait une bêtise et qu'il en subisse la conséquence, les justes conséquences, et qu'il souffre, quand bien même cela, il a quand même droit à être consolé, à être réconforté. Alors, nous avons, en tant que chrétiens, le privilège de connaître Dieu, d'être, de pouvoir recevoir et comprendre beaucoup de choses qui viennent de sa part. Et donc, Dieu cherche des personnes qui puissent être des canaux, hein, en quelque sorte, ce qu'on a vu dans le texte de Paul. Paul souffrait, il recevait des consolations de Christ pour qu'à son tour, il puisse consoler les autres. Et c'est une mission que nous avons aussi, donc. Nous sommes en contact avec beaucoup de personnes qui souffrent et d'être ces canaux par lesquels les consolations de Dieu vont pouvoir toucher les personnes qui souffrent, vont pouvoir toucher, atteindre les personnes qui souffrent à travers nous. On le voit, Dieu utilise toutes sortes de moyens, mais nous sommes quand même là pour cela aussi. Il y a des choses concrètes que l'on peut faire. On a l'exemple des amis de Job qui étaient venus ensemble pour le consoler à la fin, lui donner, faire un petit cadeau et lui faire à manger, tout ça, l'entourer, qu'il ne se sente pas seul, qu'il ne se sente pas oublié dans ses souffrances et dans toutes ses misères. Bon, c'est quelque chose qui sont à la portée. On peut le faire individuellement, on peut le faire de façon communautaire. De toute façon, l'expérience qu'a connue ma mère, hein, avec quand ce chien s'est rendu compte qu'elle souffrait, le chien a réagi. Jusqu'à présent, elle le trouvait que ce chien était bon à rien, il gardait pas bien la maison. Mais après, elle a changé complètement d'opinion sur le compagnon, le chien qu'elle avait avec elle pendant toute cette période d'absence de mon père. Donc Dieu utilise toutes sortes de moyens pour arriver à donner de la compassion. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui pouvons trouver, qui savons trouver dans la lecture de la parole de Dieu, les encouragements dont nous avons besoin, ah ben c'est aussi notre responsabilité un petit peu que de faire couler cela un maximum à l'extérieur, hein, en étant gardant un cœur sensible. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Peut-être pour terminer. Je n'avais pas prévu de le lire, mais je vais essayer de le retrouver rapidement. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. Donc, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples par rapport aux souffrances qui étaient devant lui. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, c'est une belle image que nous avons relativement à la fin de la souffrance. Hein. On a parlé de ce problème avec les dames qui souffraient en enfantant les enfants et combien le Seigneur prend ceci pour nous donner une image de la fin de la souffrance, de la joie qui doit suivre derrière. l'Épître aux Hébreux écrit par rapport aux sanctions dont nous pouvons être l'objet. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, bon courage à travers toutes les difficultés que vous, par lesquelles vous pouvez traverser. C'est normal. Jésus-Christ a souffert lui-même. Faisons confiance en Dieu. Confions-lui tout ça. Ouvrons-lui tout notre cœur. Quand un enfant souffre et il est malheureux, il court vers ses parents et puis il va trouver là, il sait qu'il va trouver là la consolation. C'est le papa, la maman, le grand frère qui est là, qui va pouvoir le consoler de ce qui lui arrive. Nous aussi, nous pouvons, avons le privilège de pouvoir crier à Dieu, de pouvoir courir, se réfugier proche de lui, par la prière, par la lecture de la parole, dans la communion que nous pouvons avoir avec lui. Alors, n'hésitons pas. Et ayons soin des uns des autres, soyons toujours sensibles à la souffrance d'autrui. Seigneur, merci pour que tu as su consoler Ève. Et merci parce que tu sauras nous consoler aussi à travers toutes nos difficultés. Merci parce que cela ne durera pas toujours. Après que vous ayez été éprouvés pendant quelque temps, Dieu vous affermira lui-même, vous rendra inébranlable, écrivait l'apôtre Pierre. Merci de ce travail que tu fais dans nos cœurs à travers cette souffrance qui n'est pas voulue par toi, mais que tu vas savoir utiliser pour notre bien. Et merci pour la consolation que nous pouvons éprouver venant de toi à travers tout cela. Merci Seigneur, de demandons de veiller sur nos frères et nos sœurs qui souffrent, te demandons de les consoler et de nous utiliser aussi si cela est possible. Dans le nom de Jésus. Amen.